Ico DDS, producteur de l'album Deep Green Sound, volume 2, présente
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes double et même plus encore, et pourtant vous êtes unique. Vous pourriez avoir comme devise, il y a de la voix. Bonjour Luc Hamet.
Bonjour Jacques.
Alors, à partir de ce soir, au Théâtre Edgar que vous dirigez, il y a Ciel ma belle-mère, on en parlera tout à l'heure.
Oui.
Vous êtes effectivement double à cause de vos voix, mais vous avez aussi un parcours, une voix particulière qu'on va évoquer à travers des dates. Et la première date que j'ai trouvée et qui vous concerne, Luc Hamet, c'est le 9 novembre 1983. Ça vous dit quelque chose? Écoutez ceci. Car Dorothée est absente ce jour-là pour une émission de Noël, et qui apparaît sur un toit ouvrant une fenêtre, c'est Luc Hamet.
Ouais, ça a été difficile avec l'équipe, hein, parce qu'ils se sont tous demandé si j'étais le fils de Mitterrand, puisqu'à l'époque c'était notre président,
oui.
Parce que Jacqueline Joubert m'avait choisi comme à son habitude en faisant un casting, en disant il est super, il est génial, et j'ai été imposé à toute l'équipe, et c'est vrai qu'à l'époque il y avait un garçon qui s'appelait Willy,
oui,
qui aujourd'hui s'appelle William Lémergie, qui s'est dit mais c'est qui celui-là? Donc pour mon baptême du feu, première télévision indirecte, remplacer Dorothée, j'ai pas eu que des copains. Hein.
Oui, et William Lémergie, puisque vous en parlez, à cette époque-là, il chantait.
Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man.
Car on a oublié, il a chanté Pac-Man, le premier personnage des jeux vidéo.
Mais tout à fait, bah, c'était à cette époque-là.
Voilà. Alors que vous avez ensuite participé à bon nombre d'émissions de télévision. Il y a eu l'Académie des Neufs, où on n'a pas arrêté de vous voir.
Ouais, ça c'était super sympa parce que j'étais avec mes pères. J'étais avec Francis Lax, avec Gérard Hernandez, avec tous ces gens que j'adore, mon Roger Carrel, Micheline Dax, qui m'ont appris le métier de faire des voix de dessins animés et de cartoons.
Voilà, on va en reparler. Alors, il y a aussi une télévision très particulière où vous êtes à côté de notre ami André Bercoff. C'est à vous, avec Joseph Poli, qui vous interviewe sur Ding Dong.
Ah, sur Anna Barbera, Ding Dong.
Voilà. Et c'est Bercoff qui fait le débat, c'est quand même assez étonnant, sur Ding Dong.
Alors, je m'en souviens plus du tout.
Et donc, vous avez une chemise bleue, c'est la première fois qu'on voit avec cette chemise bleue. Et à l'époque, vous présentez à 10h30 les dessins animés d'Anna Barbera à Luc Hamet.
Voilà, c'est ça. C'était de 90 à 96, ça s'appelait Anna Barbera, Ding Dong, avec Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Il y avait tous les dessins animés d'Anna, Joseph, Joe Barbera et William Anna. C'est Rock et Belles Oreilles, Les Pierres à Feu.
Capitaine Caverne
et son fils.
Il y avait tous ces dessins animés-là.
Oui, et il y avait Tom et Jerry, première création de Anna et Barbara en 40, avec ouais. Faites chauffer la colle. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, Tom et Jerry sont nés. C'est une allusion aux soldats américains et aux soldats anglais pendant la guerre. C'est-à-dire les soldats anglais étaient surnommés Tommies, et les Jerry, c'était les soldats anglais et américains pour désigner l'ennemi allemand.
Ah ben ça, vous me l'apprenez, je ne savais pas du tout.
Alors, il y avait donc ces émissions, et parallèlement, Luc Hamet, vous faisiez des sketchs, et car le spectacle, c'est votre passion depuis vos très jeunes années au Havre.
Tout à fait, je suis fils d'ouvrier, je suis vraiment pas un enfant de la balle, mais c'est une vocation, je sais pas, moi je suis pas prêtre, mais je sais pas ce que c'est que la vocation pour aller à l'église, mais moi vraiment, depuis aussi loin dans mes souvenirs, j'ai voulu être acteur, comédien, et j'ai commencé à déconner, à faire rire mes classes. Mes pauvres maîtresses ont beaucoup souffert parce que j'étais le trublion. Voilà, j'ai commencé avec mes copains à déconner toute la journée en classe.
Oui, et en même temps, vous aviez le sens des affaires puisque l'entrée, c'était 10 centimes à chaque
ouais,
fois.
Oui, mais ça, c'est mon côté producteur. Je ne savais pas ce que c'était qu'être producteur à l'époque. Mais quand je faisais des spectacles de marionnettes, j'étais tout petit, il y avait déjà des petits panneaux. Les marionnettes, elles avaient des petits panneaux avec Mamie Nova. Donc oui, j'ai toujours eu la fibre du spectacle général, en fait.
Et puis, il y avait le collège Raoul Dufy au Havre, puisque oui. Raoul Dufy est du Havre, et le lycée François 1er, qui est cité par Raymond Queneau dans deux vers du Chêne et Chien. Et le lycée François 1er, je ne sais pas si vous le savez, Luc Hamet, a eu deux enseignants prestigieux, Raymond Aron et Jean-Paul Sartre.
Oui, Jean-Paul Sartre, je savais, oui, bien sûr.
Et votre premier one-man show à l'époque, je crois que c'est devant 25 personnes dans la région.
Oui, c'était les centres de loisirs et d'échanges culturels. À l'époque, Le Havre était la plus grosse ville communiste. Il y avait 14 salles de spectacle dans le Havre. Et on m'a demandé de faire la première partie de Roland McDan, qui était un inconnu à l'époque. Et 6 mois après, il a explosé avec le Colarochaud.
Oui, et d'ailleurs, il vous a conseillé de faire ce métier, Roland McDan.
Il m'a dit, toi, t'es fait pour ça.
Et qu'est-ce que vous faisiez comme spectacle à l'époque ?
Un amalgame de sketchs que je piquais sur une radio concurrente de Sud Radio, pour ne pas la nommer, Europe 1. J'écoutais des sketchs avec un mini-cassette. J'enregistrais les sketchs de Zouk, notamment, parce que j'étais un dingue de Zouk, que j'ai eu la chance de voir au théâtre de l'Hôtel de Ville au Havre. J'étais tout petit et ça a été un choc.
C'est vraiment, Zouk, on l'a un peu oublié aujourd'hui.
Mais exceptionnel.
Mais elle est fabuleuse.
Exceptionnel. Bah oui, on l'a oublié, bien sûr. Mais à l'époque, c'était tellement original. Et c'était
« Oh, une fourmi! Tu vas où, la fourmi? Tu vas à l'école? Clac !»
Et il y a une chose qu'on a oublié de Zouk, sa dernière apparition, c'est dans le clip de Mylène Farmer, elle joue la magicienne dans le clip de Sans Contrefaçon.
Mais vous avez des anecdotes totalement démentes.
Vous ne saviez pas ?
Non, du tout.
En revanche, je sais aussi que vous avez une passion pour votre région natale, le Havre, et notamment pour un endroit fabuleux qui a vraiment plu aux peintres, c'est la baie de Sainte-Adresse.
Ah oui, c'est absolument magnifique. Les Havrais, pendant très longtemps, n'ont pas aimé leur ville. Je crois que ça a beaucoup changé, c'est peut-être parce que je suis parti du Havre. Et moi, j'y vais vraiment avec beaucoup de plaisir parce que je trouve que cette baie avec les ciels du Cap de la Hève, c'est absolument sublime. Qu'on soit après la pluie ou avant la pluie, c'est très très beau.
Oui, et le père et la mère du général de Gaulle sont enterrés à Baie-Sainte-Adresse parce qu'ils sont morts là-bas.
Oui, tout à fait.
Alors, ça, c'était le passé, et puis il y a eu le futur, mais le futur, on va en reparler aussi dans quelques instants d'une autre façon, à travers une date, le 30 octobre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Luc Hamet.
Echo DDS, producteur de l'album Deep Green Sound, volume 2, présente...
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Luc Hamet. Vous êtes à Sud Radio à midi, vous serez sur scène ce soir pour la première de Ciel, ma belle-mère au Théâtre Edgar. On en reparlera. Pour l'instant, on évoque une date qui forcément vous a marqué, c'est le 30 octobre 1985.
Ah.
La sortie d'un film, celui-ci. Retour vers le futur.
Hé, hey, Doc !
Car vous êtes la voix de Marty McFly.
Eh oui.
Comment c'est né ça ? Je crois que c'est à cause de Michael Jackson.
Oui, tout à fait, vous êtes incroyable. J'avais passé un essai. Jenny Gérard, qui était la plus grande directrice de plateau de doublage à Paris, recherchait un comédien qui ait une voix très légère pour doubler
Michael Fox.
Non, justement.
Oui, c'était pas lui au départ.
Non. C'était. Elle cherchait pour le film Le Magicien d'Oz,
oui,
une voix. Pour notre ami...
Michael Jackson.
Et en fait, j'ai passé des essais. Elle m'a dit, mais c'était super. Donc, j'ai doublé Michael Jackson dans Le Magicien d'Oz. Et tout de suite derrière est arrivé ce film, mais comme un autre film, où elle me dit, oh, j'ai un personnage, mais c'est pile pour toi, tu lui ressembles, c'est dingue. Je passe un essai. Et puis, bah, le reste, c'est fait. Ça part à Los Angeles. Bob Gale et Robert Zemeckis écoutent les essais et me choisissent. Et la folle aventure commence, puisque je crois qu'on me parle de ce film absolument 3 fois par jour depuis 35 ans.
Mais comment ça se fait ? Parce que c'est un phénomène autour vers le futur.
Ah, c'est exceptionnel. On a fait en 2015, pour les 30 ans du premier film, Retour vers le Grand Rex, 2900 personnes par soir pendant une semaine. J'étais une rockstar. C'est-à-dire que quand je rentrais sur scène, les gens hurlaient. C'est totalement dément. Et alors, il y a une ambiance dans ces spectacles de fans, parce que c'est que des fans, il y a une ambiance exceptionnelle, c'est que des gens bienveillants, c'est sympathique, c'est positif. Mais le film est positif, il n'y a aucune violence dans ce film.
Oui, d'ailleurs, il devait y avoir qu'un film au départ, il y en a eu 3.
Tout à fait. Vu le succès du 1... Bob Gale et Robert Zemeckis ont imaginé le 2 et le 3 plus tard. Et c'est pour ça que c'est sorti beaucoup plus tard. Le premier, 85, les deux autres, 89 et 90.
Alors, il se trouve aussi que la voiture a eu beaucoup d'importance. Et la voiture, ben, un jour, devant le Théâtre Edgar, un soir, vous avez créé une émeute, Luc Hamet, avec cette voiture.
Ben oui, parce que, pareil, la communauté de fans me demande s'ils pouvaient venir au Théâtre Edgar pour faire une soirée Retour vers le futur. Je leur dis oui. Ça a été sold out en une journée. Ils ont mis ça en vente en une journée, c'était sold out. Et c'est Jérôme Henrier qui est propriétaire d'une super DeLorean, mais vraiment la copie intégrale du film, qui a organisé ça et qui a donc garé, pour me faire plaisir, la DeLorean devant le théâtre Edgar. Il y a un pizzaiolo, j'ai cru qu'il allait perdre la vie. C'est-à-dire que quand il est arrivé à bride abattue, comme tous les pizzaiolos, sur sa mobilette et qu'il a vu devant le théâtre Edgar la DeLorean, il a fait « Oh putain la vache !» Et ça rend, mais les gens s'arrêtent, prennent des photos, c'est incroyable.
Et la vache, d'ailleurs, c'est une expression de Marty McFly que vous utilisez régulièrement.
Assez régulièrement. Oh la vache!
Et alors, vous l'avez rencontré, Michael Fox, comédien?
Malheureusement, jamais. Ça ne s'est jamais trouvé. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est un homme qui combat la maladie de manière exemplaire, qui est un chef de qui est un père de famille, qui mène une carrière extraordinaire. Vous savez que maintenant, puisque je le double dès qu'il fait quelque chose, il se sert de son handicap pour jouer des personnages handicapés. Enfin, il fait des choses assez exceptionnelles.
Oui, il a la maladie de Parkinson, il faut bien le dire.
Depuis l'âge de 28 ans.
De 28 ans.
D'une grande injustice. Enfin, c'est toujours très injuste d'être malade, mais c'est vraiment une maladie de personnes plus âgées.
Et ce qu'on sait peu, Luc Hamet, c'est qu'au départ, il ne devait pas jouer ce rôle. C'est Eric Stoltz qui devait le jouer.
Il a tourné 3 semaines.
Oui, et il a été jugé trop vieux. Et finalement, Michael Fox a s'est arrangé parce qu'il faisait une autre série télé, Family Ties. Il a réussi à déplacer
le planning.
Voilà.
Oui.
Et il a réussi à tourner ce film sans imaginer ce que ça deviendrait.
Bah, c'est-à-dire que ça a été les 3 films de sa vie, quoi. Hein. Alors, je l'ai doublé dans plein d'autres petites comédies très drôles, parce qu'il est toujours très bien. Mais c'est vrai que pour lui, c'est exceptionnel.
Et vous allez aller encore plus loin, car vous organisez pour l'année prochaine, Luc Hamet, une tournée Retour vers le futur. Qu'est-ce
oui,
que c'est que ça?
Retour vers le futur show. Eh ben, on va faire cette grande fête de Retour vers le futur. Il y aura la DeLorean, le taxi du film. Il y aura mon amie Céline Monsara, qui n'est autre que la voix de Lorraine, qui est ma petite amie, mais aussi ma mère dans un épisode. C'est complètement dément. C'est elle qui m'appelle Pierre. Et je lui dis, mais pourquoi vous m'appelez Pierre? Et elle fait, mais parce que sur vos sous-vêtements, il y a marqué Pierre Cardin.
Voilà.
Je trouve ça génial. Mais ce film est extraordinaire.
Bah, c'est l'histoire d'Alain Delon qui, rencontrant Luchino Visconti, la première fois, tout jeune, dit, ce type est extraordinaire, il a des bagages à ses initiales, LV, Louis Vuitton. C'est authentique.
Bah c'est ça, bah c'est exactement la même chose.
Alors, et cette tournée va avoir lieu, et donc ce personnage que vous avez doublé, finalement, c'est la suite d'une logique qui a débuté au temps où, au point virgule, vous jouiez « Moi je craque, mes parents raquent ». Un jour, Francis Lax est dans la salle, et vous voit prendre différentes voix sur scène.
Dans ce spectacle, mon premier one-man show, j'avais 20 ans, je faisais 10 sketchs et 10 voix différentes. Et Francis est venu, et à la sortie, il m'attendait et me dit, jeune homme, vous devriez faire du dessin animé avec nous. J'ai dit, mais monsieur, moi, je ne sais pas comment faire. On va s'en occuper. Vous m'appelez demain. Je vous dirai dans quel studio je suis. Il n'y a pas d'école. Vous allez venir avec nous et vous allez apprendre. Et quand je vous dis que Francis Lax et Roger Carrel sont mes parrains, c'est vraiment, ils m'ont pris, mais sans aucune raison, ils m'ont pris sous leur aile. Et si aujourd'hui j'ai fait autant de doublages, c'est grâce à eux.
Et pourquoi au départ autant de voix sur scène? C'était pour un sketch, pour plusieurs sketchs?
C'était ma marque de fabrique. C'était comme ça. Moi, j'adorais prendre la place des autres. J'adorais me mettre dans la peau des autres. Je me suis même mis dans la peau de Roger Rabbit, c'est pour vous dire. Donc, c'était vraiment en moi. C'est ma marque de fabrique.
Alors, Roger Carrel, Micheline Dax et les autres, Gérard Hernandez sont très drôles. Le doublage, c'est quelque chose de très méticuleux. On ne sait pas exactement ce que c'est en coulisses.
C'est une technique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement être comédien, il faut piger cette technique terrible de parler synchrone. Vous avez déjà vu ça dans les reportages à la télévision. On voit ces textes qui défilent sous l'image et qui défile à vitesse constante, et quand le mot passe la barre, il faut qu'on ait dit le mot, et quand le dernier mot de la phrase a passé la barre, il faut avoir fini de dire la phrase, et normalement vous êtes synchrone. Mais vous êtes synchrone si vous êtes dans le souffle de votre personnage, dans sa vitesse, son parler, sa respiration, c'est un travail de mimétisme avec le comédien que vous doublez.
Et c'est pas facile, d'autant moins facile quand Micheline Dax et Roger Carrel sont là, car Micheline Dax était à l'époque la victime des blagues de Carrel.
Oh, moi j'ai vécu des choses extraordinaires. Avec ces gens-là, on faisait des dessins animés de 26 minutes en 26 minutes. C'est-à-dire qu'avant de démarrer et de mettre le rouge, l'ingénieur du son disait « Attention, j'y vais ». Et Francis ou Micheline ou Roger disaient « Attention, mes enfants, hein, celui qui se plante, il offre à bouffer à tout le monde ». Alors, je peux vous dire que c'était la bataille entre eux au micro. Moi, je comptais les points, parce que j'étais le plus petit dans tout ça. Et c'était la bataille entre eux, parce qu'ils se rajoutaient des choses. Ils rajoutaient des choses dans les offs. C'est-à-dire, là où on ne les voyait pas, ils arrivaient à rajouter une blague, mais inventée sur l'instant. C'était des génies.
Et des blagues aussi en coulisses. Moi, je me souviens d'un jour où Gérard Hernandez, qu'on voit dans Scène de ménage avec Marion Gamme, un jour, sa femme nettoie sa voiture, dans la boîte à gants, voit un soutien-gorge. Et la réaction d'Hernandez dit, c'est Carrel. Et effectivement, c'est Roger Carrel.
C'est Roger. Mais Roger faisait des blagues démentes. Il a fait croire, moi j'y ai assisté, il a fait croire à, puisque vous parlez d'Hernandez, il a fait croire à Hernandez qui était content d'acheter une maison de campagne, il s'est fait passer pour son notaire en disant, la vente est annulée. Hernandez est arrivé furieux sur le plateau, en disant, putain, merde, machin. Et Roger a fait, oh mon pauvre chéri, machin, et il lui a dit le poteau rose à la fin de la séance, j'ai cru que Gérard allait le frapper. Mais ça allait loin, hein.
Mais oui, mais en même temps, c'est une époque qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Alors, vous parlez de Roger Rabbit. Vous avez effectivement été aussi la voix de Roger Rabbit, Luc Hamet. Comment c'est venu ?
C'est vous en prie.
Bah oui, oui, c'est moi. Bah, c'est pareil, j'ai passé un essai, puis j'ai été choisi. C'était en 87, peu de temps après Retour vers le futur. Et comme par hasard, c'était Bob Zemeckis. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait aussi... Eux aussi, on parlait de travail en famille tout à l'heure, Jacques. Je sais que vous aimez ça, et moi aussi. Il n'y a que la famille qui compte. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai fait partie de cette famille-là. J'ai eu au téléphone Bob Gale, qui me, très gentiment me l'a dit en anglais, en disant, mais Luc, voilà, c'est pourtant des gens que je ne connais pas, mais on se connaît.
Et Terry Gilliam a failli réaliser le film, des Monty Python, il a refusé, et aujourd'hui, il le regrette encore.
Je le comprends.
Et puis, il y a eu Mozart. Alors, dans un genre différent, vous avez doublé Mozart au cinéma.
Oui, le fameux rire de Mozart. Ben oui, c'est comme ça que j'ai commencé, je dirais. C'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité. J'avais fait juste avant Karate Kid 1, avec Ralph Macchio, qui avait beaucoup de... Bah tiens, avec Roger Carrel dans le rôle de Monsieur Miyagi, oui. du sage japonais. Et j'ai passé un essai avec Jacqueline Porel, autre grande dame du doublage.
Oui.
Et elle me dit, j'ai un rôle pour toi, c'est ton rire. Bon, c'est vrai que j'ai un rire un peu tonitruant, mais enfin, quand même pas celui de Mozart. J'ai passé les essais et je me dis, mais je suis trop jeune. Le comédien, il avait 30 ans à l'image. Moi, à l'époque, j'avais 22 ans. Je lui ai dit, mais Jacqueline, tu seras très bien. Et je me suis retrouvé dans cette aventure extraordinaire avec des comédiens exceptionnels, que ce soit en original et en français. J'avais des gens exceptionnels quoi, autour de moi. Et Jacqueline m'a accompagné et on a fait ce film qui est pour moi un souvenir exceptionnel.
Oui, alors on entend votre voix sur Sud Radio, mais aussi à la télévision régulièrement dans cette série. Beverly Hills, ça aussi, 10 ans de travail, Luc Hamet.
Alors, 10 ans de travail, je dirigeais cette série pour TF1 et je faisais la voix de Brandon. Et alors, cette série, elle est très importante dans ma vie, car aujourd'hui encore, je dors avec elle, puisque Kelly, ma femme, je l'ai rencontrée sur Beverly Hills. Emmanuel, ma femme, qui m'a fait trois beaux enfants, merveilleux enfants.
Et, un enfant
et Kelly,
de...
voilà.
Et un enfant de plus, c'est la nouvelle série de Beverly Hills que vous êtes en train de doubler et qui va être diffusée sur TF1.
Le reboot de Beverly Hills que nous avons doublé samedi avec Emmanuel. Nous avons refait Jennifer Garth, Kelly, et Kelly Taylor et moi, Brandon Walsh. On a redoublé ça samedi. Ça va passer en fait sur TMC le 12 octobre. J'ai appris ça samedi sur le plateau, les trois premiers épisodes. Et ils ont fait un truc super. Moi, j'étais un peu impatient de voir ce que ça donnait. Bah, écoutez, c'est vachement chouette.
Le 12 octobre, on sera devant nos écrans. Et ce soir, on sera au Théâtre Edgar avec le 1er octobre 2019. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Luc Hamet.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Luc Hamet, 1er octobre 2019, aujourd'hui, à 19h ce soir au Théâtre Edgar, qui est à Montparnasse, boulevard Edgar Quinet, première de Ciel, ma belle-mère. Alors, c'est un fédo, mais c'est pas un fédo en même temps, Luc Hamet.
Écoutez, c'est un fédo qui s'appelait Le mariage de Barillon. C'est un Phédo que je connais depuis très longtemps parce que je suis fan et qui n'est pas toujours joué. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter des pièces qu'on redécouvre. Monter la puce à l'oreille, j'adore la puce à l'oreille, mais franchement, c'est tout le temps, tous les ans.
La donc, puce à l'oreille, le fil à la patte et l'hôtel de l'île voilà. de la chambre, c'est les trois top 50 voilà, de
voilà,
Phédo.
Voilà. Donc non, moi j'essaie de chercher un petit peu. J'avais déjà fait Monsieur Nounou au Théâtre Rive Gauche et puis là, j'avais vraiment envie de faire cette pièce qui a un rôle exceptionnel de femme. C'est une belle-mère. C'est une belle-mère qui, à cause d'un employé de mairie aviné que je joue pour le plus grand bonheur de moi-même, parce que je m'éclate comme un fou, c'est ma récréation, mon personnage, Topo, se trompe sur l'acte et c'est la belle-mère qui se retrouve mariée avec son gendre. Alors le maire, lui, dit « Bah écoutez, on est entre nous, on va déchirer l'acte. » Et la belle-mère fait « Ah non, non, moi ça me va très bien. » Et c'est le point de départ de sa pièce, je vous laisse imaginer le reste.
Avec des portes qui claquent.
Oh, c'est totalement dément. On est 7 sur le plateau. Donc au Théâtre Edgar, voyez, vous avez les acteurs devant vous. Là, franchement, vous vivez tout ça à fond. Nous, on s'éclate comme des fous. J'ai une équipe de dingue. Autour de moi, c'est des gens avec qui j'avais joué ou que j'avais déjà mis en scène. Donc on est une bande de copains. Et autant vous dire que la mayonnaise prend.
Oui, et sur Internet, d'ailleurs, sur votre site, il y a une bande-annonce qui donne vraiment envie de voir le spectacle. Il y a de la musique en plus.
Mais oui, on chante. C'était une tradition chez Phédo. Il n'y a pas beaucoup de Phédo où il n'y a pas de chansons. Alors là, il n'y en avait pas. Et on en a rajouté, avec mon musicien habituel, Christian Germain, on en a rajouté 4. Voilà, donc on chante.
Alors, il faut savoir que Phédo, lui aussi, était en avance sur son temps, on l'a un peu oublié. Dès qu'il y avait quelque chose de nouveau dans la technologie, il l'utilisait dans ses pièces. Exemple, dans La Main Passe, il y a un magnétophone pour bâtir une scène, et à l'époque, c'était les prémices du magnétophone.
Totalement. Et au même titre, dans les Phédo, il y a souvent des, je sais que vous aimez ça, des rapports à l'actualité de l'époque. Ne te promène donc pas toute nue, le bourgeois dont la femme est toujours déshabillée lui demande de ne pas passer devant la vitre parce qu'il y a Clémenceau qui habite en face. Et il y avait beaucoup de notions comme ça, de chansonniers finalement, dans les pièces de Phédo.
Et les lits tournants qu'on voit aujourd'hui dans les pièces, le premier à l'avoir utilisé, c'est Phédo. Dans la puce à l'oreille, ils venaient d'exister, le public ne les connaissait pas encore.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors, vous êtes sur scène, ce qui est une nouveauté, parce que vous avez différentes activités. Monter sur scène, il y a des années que ça ne vous est pas arrivé, Luc Hamet.
Depuis que j'ai racheté le Théâtre Edgar et qu'il a fallu que je m'en occupe, que je le relance, que je le programme, et puis surtout, j'ai fait d'importants travaux, puisque j'ai cassé le mur entre le Café d'Edgar et le Théâtre d'Edgar pour en faire un théâtre de 132 places avec une scène de 8 mètres d'ouverture, qui est donc maintenant un vrai théâtre, qui n'est plus un café-théâtre. Ça m'a demandé beaucoup de temps et je ne pouvais pas tout faire. Donc là, c'est ma femme, Emmanuelle, qui a adapté cette pièce de Phédo, parce que on partage beaucoup de passion, qui m'a dit « il y a un rôle pour toi ». Et je lui dis au départ, j'ai dit « non, non, je ne vais pas jouer, je ne vais pas jouer dans mon théâtre et tout ». Elle me dit « si, c'est le moment, tu le mérites, vas-y, fonce ». Donc encore quelque chose que je lui dois.
Voilà. Et vous devez aussi à quelqu'un qu'on connaît bien, Éric-Emmanuel Schmitt, le fait d'avoir acheté le théâtre.
C'est
ça
lui.
S'est passé au cours d'un déjeuner, je crois, Luc.
Tout à fait. C'est Éric-Emmanuel Schmitt qui est donc le directeur du Théâtre Rive Gauche, qui, quand il avait acheté le Rive Gauche, dans la corbeille de la mariée, il y avait le Café d'Edgar et le Théâtre d'Edgar. Et un jour, il m'invite à déjeuner avec Bruno et il me dit on cherche quelqu'un pour acheter Edgar parce qu'on a déjà fort à faire avec le Rive Gauche. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un? Et je me suis entendu lui répondre moi. Et l'aventure est partie comme ça.
Et c'est un risque parce qu'aujourd'hui, les théâtres, on les transforme en garage. Vous faites l'inverse, Luc Hamet.
Non, non, moi, je m'occupe de mon théâtre. C'est mon bébé, c'est mon outil de travail. Et il y a une ambiance, je le disais tout à l'heure, familiale. On travaille tous ensemble et on est là pour que le public soit le plus heureux possible tous les soirs.
Alors, Ciel, ma belle-mère, c'est un boulevard, un genre qui a été aimé puis décrié et qui semble revenir à la mode, Luc Hamet.
Oui, alors moi, je ne dois pas suivre les modes parce que c'est ce que j'ai toujours aimé jouer et monter. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est du boulevard. Oui, mais qu'est-ce que c'est chouette quand c'est bien fait d'arriver dans un théâtre et d'oublier tous ses soucis, de s'éclater, d'être dans un autre monde parce qu'on est en décor, en costume, on est 7 sur le plateau, les portes claquent, ça rentre, ça sort. Pour moi, c'est ça le spectacle, c'est du divertissement de qualité.
divertissement d'artisan, puisque vous faites donc la mise en scène, vous êtes directeur du théâtre, vous jouez dedans, et en plus vous avez fait fabriquer les décors par votre entreprise.
Oui, moi j'ai une fabrique, mais ça c'est mon bonheur, j'ai une fabrique d'ateliers de décors à Montreuil qui s'appelle Les Ateliers Décors, où on a construit un autre Feydeau, le décor quand même de la Porte Saint-Martin. Je suis très fier que ce soit nos ateliers et Claude Pierson qui ont construit pour Zabou actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin. Évidemment, passer d'un décor de 3 mètres de haut chez moi au théâtre Edgar, qui est modeste, à 5 mètres ou 6 mètres de haut à la Porte Saint-Martin, c'est aussi notre travail dans les ateliers décors.
Oui, un travail d'artisan avec des gens que vous aimez autour de vous, car vos comédiens, vous ne prenez pas souvent des comédiens classiques. Par exemple, David Martin fait partie de la distribution de Ciel, ma belle-mère.
Bah, David, je l'ai connu quand je faisais les émissions à France 2. Il était cuistot à l'époque.
Et puis, le fils de Jacques Martin.
Bien sûr. Et puis, il lui ressemble de plus en plus. Mais c'est incroyable. Ouais. Il a une voix extraordinaire. Quand il chante, il est formidable. Et puis, c'est un mec adorable. Et il est pile le personnage, c'est lui qui joue Barillon. Le cocu, malgré lui, qui est obligé de d'épouser sa belle-mère.
Et quand on voit votre programmation, on s'aperçoit que des noms qui n'étaient pas forcément des comédiens ont été à l'affiche et ont triomphé au théâtre Edgar.
Ben, j'essaie. Moi, vous savez, j'ai pas de... Moi, tout est ouvert chez moi. Je ne ferme jamais les portes, ni les fenêtres, ni la lucarne. Je suis toujours ouvert à tout. Et si le spectacle et le projet me plaît, eh ben, je fonce.
Et vous avez une technique particulière, rare au théâtre. Une semaine, le spectacle est à 19h, une semaine à 21h, Luc Amet.
Alors ça, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui a commencé au Rive Gauche comme ça, qui m'a soufflé cette idée. Et je dois dire que lui ne l'a pas continué, moi je la continue. J'ai... Tous les soirs, des gens du public qui me disent « Ah, oh, c'est extraordinaire, on peut choisir l'heure à laquelle on voit un spectacle. » Il y a des personnes plus âgées qui ne veulent pas rentrer trop tard chez elles, qui viennent à 19h et qui me disent « Vous savez, si c'était à 21h, je ne serais pas venu. » Donc j'ai gardé ça et ça fonctionne.
Et puis, bon, il y a le théâtre, mais il y a aussi le cinéma. Et votre premier film à l'écran, Luc Amet, c'était celui-ci.
Alors les playboys, la nuit a été bonne ? Pas trop fatigué ?
Un film de Max Pécasse. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, Luc Amet.
Mais oui, mais écoutez, j'avais le premier rôle par contumace.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bah, écoutez, j'avais 22 ans, j'étais super heureux, c'était mon premier film. On a tourné à Saint-Tropez, j'ai fait un travelling sur le port de Saint-Tropez, je m'en souviendrai toute ma vie, on enjambait les rails. J'ai appris ce que c'était que ce métier. Mon agent m'avait dit, t'apprendras tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Voilà. C'était pas gentil de sa part, parce que Max Pécasse était un homme extrêmement élégant, et moi j'ai beaucoup appris.
Et puis il y a eu quelqu'un aussi qui vous a engagé, mais celui-là vous le respectez, même c'est un maître, c'est Francis Weber.
Ah bah, il m'a fait l'amitié de me donner un joli rôle dans Le Placard. C'est moi qui mets quand même le préservatif géant sur la tête de Daniel Auteuil quand même. Et puis j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, Monsieur Rochefort, j'ai passé une journée dans le bureau de Rochefort qui était le directeur de l'usine de préservatifs du Placard.
Et avant d'être un grand auteur de théâtre, Francis Weber était journaliste à RTL.
Oui.
Et un jour, il a quand même réussi la performance d'interviewer à la radio une stripteaseuse en lui demandant de faire un striptease. C'est resté dans les annales.
Ça ne m'étonne pas de lui, parce qu'il a quand même un sacré humour. Hein.
Et alors, cette pièce, elle se joue à Edgar, elle va partir en tournée ensuite.
Oui, elle part en tournée à partir de février. On a déjà des dates de tournée et on va continuer sur la saison 2020-2021 avec Nadège Lacroix. Vous parliez de gens que j'amène au théâtre. Nadège, que beaucoup de jeunes auditeurs connaissent, puisqu'elle a fait énormément d'émissions de télé-réalité, qui est une fille formidable, a le rôle de la jeune première dans ce Feydeau, et elle est formidable.
Et parallèlement, vous continuez à faire du doublage?
J'en fais un petit peu. Bah là, j'ai fait le reboot de Beverly Hills, je fais Michael J. Fox dès qu'il fait un épisode d'une série. Là, je l'ai fait l'année dernière, dans la saison de l'année dernière sur le président des États-Unis, Designated Survivor.
Ouais.
Voilà. Donc, il faisait un avocat de la Maison-Blanche du président, salopard, comme il aime jouer les salopards, mais avec une canne. Enfin, bon, il est exceptionnel, il est dément. Donc, moi, je le double à chaque fois qu'il fait quelque chose.
Et votre image de marque, c'est la vie en bleu, car vous êtes toujours habillé en bleu, Luc Amet. Il y a raison.
Mais bien sûr, le théâtre Edgar est aussi surnommé le théâtre bleu. Donc, je suis aux couleurs de mon théâtre.
Et vous avez envie de continuer à jouer, de continuer à faire d'autres choses?
Ah oui, et alors mon plus gros bonheur serait enfin de jouer ailleurs que chez moi. Et que si ça pouvait donner... Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, mais non, maintenant t'as ton théâtre. » Mais moi, je suis partant pour jouer. Moi, c'est ma récréation, c'est mon bonheur. Pour une fois, pendant une heure et demie, je ne m'occupe plus de personne. C'est un bonheur.
Et on dit que le théâtre est en crise, que les gens n'y vont pas. Bon, dans les années 60, on voyait déjà trop de spectacles à Paris et Barillet et Grédy triomphaient. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais moi, je pense que quand on fait les choses qu'on aime et qu'on les propose, y a un public. Et moi, je dois dire que depuis 5 ans, cette année, j'ai fait la meilleure année depuis que je suis ouvert. J'ai fait mieux d'année en année. J'ai une programmation de comédie de qualité qui est étiquetée comme telle. Vous savez, le public, il ne se trompe pas. Je pense que quand on fait ce qu'on aime... Eh ben, ça suit.
J'en reviens à Ciel, ma belle-mère. Il y a quand même un comédien qu'on ne voit pas dans le spectacle, c'est un phoque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ah, mais c'est Fedot. L'ex-mari de la belle-mère, qui a disparu en mer, évidemment, dans l'acte 2, revient. C'est un pêcheur d'Islande. Et il est parti sur un banc de morue et son chalutier a chaviré. Mais... En fait, on pense qu'il est mort. En fait, il a survécu sur une île pendant un an avec un phoque. Suivez mon regard. Donc, quand il rentre à Paris chez sa femme, énième rebondissement de la pièce, il revient, mais pas seul, il revient accompagné de son phoque.
Et chaque détail compte en plus.
Bah, bien sûr, il faut lui faire prendre un bain au phoque.
Oui, alors ?
Et alors, vous avez de l'eau de mer. Il y a une réplique comme ça. Vous avez de l'eau de mer à Paris. David Martin Barillon dit « Non, il n'en vient pas encore jusqu'à Paris. » Ben, mettez du gros sel. Voilà, c'est toute la folie de Fedot, toute l'absurdité aussi de Fedot que j'adore.
Oui, avec un rythme précis. Moi, je me souviens de Robert Derry, le moindre détail dans les branquignoles qui sont cultes, s'afficher la pièce en l'air. Là, il ne faut pas se tromper.
Ah, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est ce que je leur dis tous les jours. C'est de la danse, c'est du ballet.
Et c'est du bonheur, qu'on retrouvera donc ce soir à 19h, puis la semaine prochaine à 21h.
Tout à fait.
Jusqu'à fin janvier au Théâtre Edgar, ça s'appelle « Ciel, ma belle-mère » de Georges Fedot, adapté par Emmanuel Hamet, avec différents comédiens, dont Luc Hamet.
Merci Jacques.
Merci à vous, et puis vous revenez quand vous voulez.
Avec
plaisir.
Parlons
vrai comme vous, avec votre voix. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye, et nous on se retrouve bien sûr demain à 13h. Bonne journée.
Avec Echo de DS, producteur de l'album « Deep Green Sound, volume 2 ».